le fait de méditer au divin, le fait de méditer au fait que Dieu il crée et il maintient le monde en vie à chaque instant, ça va déclencher dans le cœur ce qu'on appelle itpaalut, une réaction dans le cœur. Le cœur il va ressentir en fonction de la réflexion du cerveau, de ce qui se passe dans le cerveau. Donc à ce sujet-là, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle Chitsoniut Alev. Chitsoniut, ça désigne quelque chose de superficiel. Alors, c'est quoi Chitsoniut Alev? C'est quand un juif, il va méditer au fait que Havaye, que Hachem, il est notre vie. On va méditer à la grandeur de Dieu, du fait que Dieu, il va créer le monde et il va le maintenir en vie à chaque instant. Et donc, à ce sujet-là, on va ressentir dans le cœur un sentiment, on va ressentir que Dieu est notre vie. Donc, ce point-là, cette réflexion-là, elle est liée avec ce qu'on appelle Chitsoniut Amochin. Donc, on voit que Chitsoniut Amochin, ça nous amène à la Chitsoniut Amidot. Ça signifie que Chitsoniut Amochin, comme on l'a dit, Chitsoniut, ça désigne la superficialité. Donc, Chitsoniut Amochin, c'est le fait de méditer à la grandeur de Dieu, mais de méditer à un niveau qui n'est pas le plus élevé. Quand on parle de Pnimiut Amochin, c'est qu'on va amener notre réflexion à un niveau beaucoup plus haut. On va amener notre réflexion au fait que Dieu, ce n'est pas seulement le créateur du monde, on ne peut pas limiter l'Éternel au monde, puisque les mondes ils ne sont rien en comparaison à quoi? À son essence. Donc c'est le fait de méditer à l'essence de Dieu, là on parle de Pnimiut Amochin, qu'on va ressentir dans le cœur, quelque chose de très profond, c'est ce qu'on appelle donc Pnimiut Alev. Donc c'est ce sujet-là qui est le sujet du Dvar Malchut de cette semaine, d'une certaine manière, puisque dans le Dvar Malchut, on parle toujours de l'essence. Et là-dessus, le Rabbi Rachab, il va nous apporter un exemple qui va nous permettre de comprendre quelque chose de très profond, quelque chose qui est lié avec l'essence divine. Alors l'exemple qu'il rapporte, c'est l'exemple d'un artiste peintre. Et il explique qu'il y a deux niveaux, il y a deux sortes d'artistes. Le premier, le peintre, qui sait dessiner, qui sait manier son pinceau et surtout qui sait ajuster ses traits, qui a une connaissance des lignes, des formes, des couleurs, des tons, de la lumière, de la perspective. Donc qui sait construire son tableau, justement parce qu'il a cette connaissance-là qui lui permet de figurer son modèle, de dessiner son modèle. Donc il est comme ça animé par toutes ces connaissances qui sont techniques, et il parvient à construire son tableau avec justement cette technique et cette connaissance. Seulement le problème, c'est que c'est pas forcément de cette manière qu'il va parvenir à insuffler, à donner une âme à son travail. Et là-dessus, le Rabbi Rachab vient nous expliquer que le véritable artiste, c'est celui qui ne s'occupe pas des traits, en définitive, même s'il a la connaissance, il a les mêmes connaissances que le premier peintre, celui-ci, l'artiste, c'est celui qui va au-delà du trait. C'est-à-dire que quand il dessine, il dessine avec des traits et des formes, comme le premier, le sujet de son tableau, il est moins occupé aux traits qu'au contenu profond. C'est-à-dire qu'il va s'attaquer directement à ce qui est essentiel, au contenu profond, au contenu intérieur. C'est-à-dire que le trait, il est annulé d'une certaine manière à son intention. Quand il dessine, il est plus animé par le désir d'exprimer quelque chose de profond, de définir quelque chose de profond, que du trait qu'il va ajuster sur sa toile. Donc ce niveau-là, c'est le niveau donc de l'artiste, c'est cet exemple-là qui nous sert à comprendre de quelle manière on doit étudier la Torah. À partir du moment où un juif il étudie la Torah avec les forces de son intellect et qu'il met tout son intellect à comprendre un concept divin, là-dessus on doit faire la différence entre l'intellect de la Torah, le concept divin qu'il étudie, et le divin lui-même qui se cache dans les lettres et dans les mots de la Torah. C'est-à-dire qu'une personne elle peut étudier la Torah en ayant connaissance de tous les avis, de tous les poskim, de tous les commentaires, de tout ce qui accompagne le texte qu'il étudie, et il a une connaissance, il a une certaine richesse qui lui permet vraiment de savoir toutes les svarot, tous les avis, mais c'est pas pour cela qu'il va parvenir au divin qui se cache dans les mots de la Torah. Ça, on doit comprendre ça, même on peut comprendre au moyen d'une image, au moyen des lettres. On voit qu'une lettre de la Torah, et quand on écrit, quand un sofer il écrit un sefer Torah, il doit écrire d'après des halakhot, il doit écrire la lettre. Donc chaque lettre, elle a une forme qui est particulière, et si jamais il y a un détail qui n'est pas conforme à la halakha, alors sa lettre, elle n'est pas kachère. Mais on doit comprendre que chaque lettre, elle possède aussi une âme. Elle possède quelque chose de divin qui se cache à l'intérieur de la lettre. Donc c'est pour ça même quand on dit que le Mashiach, il lit entre les lignes, on doit comprendre par là, il voit entre les fentes, pardon, on doit comprendre que le Mashiach, c'est celui qui arrive à déceler le divin qui se cache dans les lettres et dans les mots de la Torah. C'est-à-dire que le véritable artiste, le véritable Talmid Chacham, celui qui vraiment étudie avec une telle intensité, avec une telle force, qu'il est capable de découvrir la lumière qui se cache dans les mots et dans les lettres de la Torah. Il est capable de déceler le divin qui se cache dans les mots de la Torah. De la même façon, pour revenir à l'exemple, on voit que le véritable artiste, c'est celui qui va donner une vitalité à son œuvre, qui va donner une âme à son travail, qui va insuffler vraiment quelque chose que le premier ne possède pas. Quand on dit que celui qui parvient à faire un tableau, mais même s'il a une connaissance des lettres, des lignes, qu'il a une connaissance de la perspective, c'est pas pour autant qu'on va ressentir, on va voir apparaître dans son œuvre de la vitalité. La vitalité qui existe donc dans le travail de l'artiste, cette même vitalité, elle existe dans l'étude d'un Talmid Chacham, de celui qui s'attache à la profondeur. Donc c'est ça quand on parle de Pnimiut Hamochin, on parle vraiment du contenu divin qui se cache dans la Torah. Et ce contenu divin, donc, il va avoir pour effet de briser toutes les limites. Alors là-dessus, le Rabbi Rachab, il nous explique quelque chose qui est essentiel. Il nous parle de la sortie d'Égypte. Alors quand la sortie d'Égypte, c'est quoi? De manière profonde, on voit que la gorge, elle sépare la tête du cœur. On voit que le cerveau, il illumine le cœur. À partir du moment où on médite un concept divin, ça c'est écrit dans le livre du Tanya, au tout début du livre du Tanya, ça fait naître un sentiment dans le cœur. Donc, quand on me dit que le cerveau il illumine le cœur, on parle de cette lumière qui vient du cerveau et qui va passer par la gorge et qui va illuminer le cœur. C'est-à-dire qu'il va faire naître un sentiment dans le cœur. C'est pourquoi on parle de la sortie d'Égypte, parce que justement entre la tête et le cœur, il y a la gorge. La gorge, ça représente, c'est l'endroit le plus étroit du corps. Et en hébreu, l'étroitesse, c'est le mot tsar. Et donc, c'est la racine du mot Mitzrayim, l'Égypte. L'Égypte, elle désigne les limites. Donc, quand on dit sortir d'Égypte, on fait allusion à cette lumière qui vient du cerveau et qui illumine le cœur. Maintenant, quand on médite avec, on a parlé de Ritzoniut Alev, et qu'on a parlé de Ritzoniut Hamoach même, le fait de méditer à un niveau divin qui est inférieur finalement, alors ça va, qu'est-ce que ça signifie quoi? Ça signifie que on va faire naître des midot dans le cœur, mais c'est quoi le guéder des midot? C'est quoi une mida? Ça représente, on se demande qu'est-ce qui est bon pour moi. C'est-à-dire que de notre réflexion, on fait naître seulement dans le cœur quelque chose à laquelle on va trouver un intérêt personnel. C'est-à-dire, on se demande quelle chose est bonne pour moi, qu'est-ce que je vais retirer de cette réflexion que je peux utiliser moi-même. Donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, alors le Rabbi Rachab, il explique que le cœur et le cerveau ne s'unissent pas. Quand est-ce qu'on voit que le cœur et le cerveau y s'unissent? C'est justement la Pnimiut Halev, la profondeur du cœur. Quand on médite à un sujet divin, mais un sujet divin qui est au-delà même des mondes, c'est-à-dire que quand on médite au fait que Dieu, il est au-delà de tous les mondes, quand on médite à son essence, et qu'on médite à l'essence pour elle-même, donc on médite à la grandeur de Dieu, telle qu'elle n'a aucun rapport avec notre propre existence, à ce moment-là, on touche au divin, on touche à ce qu'on a dit, Pnimiut Hamochin. Et comme on touche à quelque chose de divin, à l'exemple de cet homme qui étudie la Torah, et qui va déceler dans les lettres de la Torah, dans les mots de la Torah, le divin qui se cache dans les mots de la Torah, alors on va, ce divin-là, quel effet il a dans notre cœur? Il a le pouvoir de briser toutes les limites. Il a le pouvoir d'illuminer le cœur sans passer par la gorge. C'est-à-dire que la lumière qui brille dans le cerveau à ce moment-là, elle va briller de la même façon dans le cœur. Et c'est ça le niveau qui nous importe ici, c'est ça le niveau qu'on recherche. C'est là qu'on voit que les midot, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir, elles ne sont plus, pour employer le mot qui est utilisé, morgashot, plus ressenties. Mais ce sont des midot shel bitul, c'est-à-dire des sentiments qui sont unis à la soumission elle-même, qui représentent, qui expriment la soumission. C'est-à-dire que on va non pas ressentir quelque chose qui nous concerne à nous, on va pas ressentir une chose à laquelle on va chercher un intérêt personnel, mais on va simplement contempler la grandeur de Dieu et on va la ressentir dans le cœur de manière qui, à ce qu'on appelle même ces midotes-là, des midotes le murgashot, c'est-à-dire la soumission la plus totale du cœur et du cerveau finalement au concept divin que l'on est en train d'étudier. C'est le point ici qui est souligné par le rabbi, et ce qui est important ici, c'est de comprendre justement ce désintéressement. Le fait de se désintéresser, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir un intérêt personnel. On peut comprendre ça par un enseignement du Tanya, quand on dit que quand on donne de la tzedaka, eh ben on doit la donner, on doit uniquement en pensant au bien de l'autre, non pas au bien que cela nous procure à nous-mêmes. Donc, notre réflexion, elle doit être axée, elle doit aller en ce sens-là. Et ça commence par le fait de méditer à la grandeur de Dieu, de méditer à son essence, de méditer au fait qu'il est au-delà de tous les mondes, et de s'aventurer dans cette réflexion-là. Ça peut nous procurer justement un sentiment qui n'a pas de rapport avec nous-mêmes. C'est-à-dire un sentiment qu'on pourrait même définir de divin. On a bien compris que quand le Rabbi Rachab nous apporte cet exemple d'un peintre qui va peindre avec des traits et qui va peindre seulement avec des traits finalement, il est seulement occupé à faire des traits, à faire des formes et à représenter une chose en ayant ce regard qui est limité, alors que le second il va parvenir à l'essence de la chose, il va parvenir à l'âme de la chose. On a bien compris que c'est la même chose quand on réfléchit. C'est-à-dire que quand on réfléchit et qu'on a une réflexion qui est, si on peut dire, entre guillemets, technique, sans s'attacher au divin, alors on va avoir aussi, on va avoir un sentiment qui est limité. Alors que quand on essaie de vraiment briser les limites, c'est-à-dire briser le trait même, quand on voit ce peintre-là qui, d'une certaine manière, qui brise les traits, qui brise tout ce qui est technique, qui brise toute la perspective pour se plonger dans le contenu vraiment profond, dans le contenu essentiel, il parvient au divin, donc il parvient à l'âme, à cette âme-là, qui va devenir vraiment ce qu'on appelle ensuite la beauté, la vitalité de son œuvre. De la même façon dans notre étude de la Torah, on doit avoir ce regard-là. Alors là, c'est pour ça qu'on parle, dans la Chassidut, on parle de l'évouché à saga, le fait de débarrasser, si on peut dire, de déshabiller les lettres et les mots de la Torah, c'est-à-dire pour donner un exemple, c'est quand on essaie d'expliquer une chose à un enfant et qu'on lui donne un exemple, cet exemple, il va cacher un contenu profond qu'on va lui faire passer au moyen d'un exemple. Mais celui qui est capable de déshabiller l'exemple, c'est-à-dire vraiment de parvenir au divin qui se cache dans cet exemple, alors il parvient au plus haut niveau dans sa réflexion. C'est quelque chose qui se produit au moyen de l'intellect, mais c'est l'intellect qui nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond. Donc c'est toujours ce sujet qui revient dans le Dvar Malchut du Rabbi, qui nous explique que comment on parvient à atteindre l'essence, c'est déjà bien sûr en ayant une connaissance de la chose dans son aspect formel. Mais on doit parvenir au contenu profond. Et c'est de cette manière-là qu'on parvient à atteindre l'essence. Comme l'Admor HaZaken l'a expliqué, celui qui travaille pendant la semaine, il mange le jour du Shabbat. C'est-à-dire que celui qui est occupé pendant la semaine à utiliser les forces de son intellect, il travaille avec les forces de son intellect, le jour du Shabbat, il va recevoir un cadeau de l'Éternel, il va recevoir une compréhension qui est au-delà de l'intellect. Donc il va atteindre justement le divin qui se cache dans le monde. C'est pour ça que le Shabbat lui-même, il représente la volonté, le dévoilement de la volonté la plus profonde et la plus intérieure de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on obtient comme un cadeau de l'Éternel. Mais le Rabbi Rachab, il met le point sur le fait que c'est de quelle manière, par quelle mitzvah, on peut parvenir vraiment à atteindre l'essence. C'est par le fait de donner la tzedaka. Donc cette mitzvah, encore une fois, telle qu'elle est définie par la Mora Zaken, on dit que quand on donne la tzedaka, on donne de notre vie pour le bien de l'autre, que l'argent, il est comparé au sang, la vitalité, il donne de la vitalité. Donc l'enseignement qu'on peut retirer de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est justement cette vitalité qu'on doit rechercher, cette vitalité qui est essentielle, qui se cache dans les lettres, qui se cache dans les mots, et qui se cache même dans chaque juif. De la même façon, ce qu'on a dit au sujet d'un tableau, ou qu'on a dit à propos de l'étude de la Torah, on peut le dire au sujet d'un juif. Si on regarde un juif en regardant ses traits, c'est-à-dire son aspect extérieur, son aspect vraiment formel, alors on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'atteindre le contenu profond, c'est-à-dire comme c'est écrit, que tous les juifs sont montés dans la pensée de Dieu, ils se trouvent tous dans la pensée de Dieu. L'origine de l'âme de chaque juif, elle est dans la pensée première de Dieu. Et donc on doit avoir ce regard toujours profond de s'attacher à la racine des choses, de s'attacher au divin qui se cache dans le monde, qui se cache dans chaque juif, et être à l'exemple donc de cet artiste qui, même quand il trace un trait, il est occupé à l'âme de son tableau. Et c'est pas un exemple qui est anodin, parce que le Rabbi Rachab, il est d'une extrême sensibilité, et il a visité plusieurs fois des musées, et donc quand il parle de cet exemple-là, de l'œuvre, elle est vraiment expressive de cette idée-là, du fait qu'on doit s'attacher à la profondeur et qu'on doit donner de la vitalité à notre vie, à toutes nos pensées, à toutes nos paroles et tous nos actes, de manière à ce que notre vie, elle exprime cette âme, c'est-à-dire c'est quoi surtout le désir du dévoilement du Machiav, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Shabbat Shalom, Mevorach.